Axel Mounier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir au micro de l'invité de la Tribune de l'Art.
Merci à vous.
L'objectif est bien d'interroger tous les historiens de l'art, tous les acteurs du patrimoine, de la culture, au sens bien sûr histoire de l'art et patrimoine, et notamment de jeunes chercheurs, dont vous. Alors vous avez 31 ans, mais vous êtes encore très jeune, en tout cas vous faites encore plus jeune que vos 31 ans.
Merci beaucoup.
Vous êtes un jeune docteur, vous avez passé l'année dernière votre doctorat de manière brillante. Alors, l'objectif, c'est bien de parler de ce que, pourquoi, comment être arrivé à l'histoire de l'art, de ce que vous faites aujourd'hui, de votre sujet, qui est Watteau et la mode, pourquoi la mode, et ensuite de nous dire un peu quels seront vos projets, quels sont vos projets immédiats. Donc voilà, commençons peut-être par vous, pourquoi être arrivé à l'histoire de l'art, comment est-ce que vous étiez passionné depuis le début par l'histoire de l'art, ou est-ce que c'était un hasard ?
Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être le premier jeune chercheur que vous receviez.
C'est Alexandre Gadi qui ne va pas forcément être content, puisque Alexandre...
Oh, je pense pas qu'il se vexe.
On va dire qu'il est encore un jeune chercheur, un petit peu moins jeune que vous, simplement.
Merci beaucoup pour cette invitation. Pourquoi l'histoire de l'art ? C'était pas du tout prévu. Pas du tout prévu dans ma vie et pas du tout une obsession de jeunesse. J'étais bon élève au lycée, j'ai fini par faire une prépa. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait continuer les études, donc j'ai évidemment continué les études sans trop me poser de questions. Je suis rentré en Hippocagne et par un heureux hasard, ma mère a inscrit mon petit frère au collège où j'étais moi-même allé, et le directeur du collège s'est posé la question de savoir ce que je devenais. Et ma mère lui a dit que j'étais en prépa et que j'adorais l'art, et il lui a dit qu'il fallait que je passe le concours de l'école du Louvre. Voilà, 12 ans plus tard, j'ai une thèse en histoire de l'art, donc ça s'est passé comme ça et c'était pas tout à fait prévu. Après, il y avait ce truc de passion d'enfant, mais de vouloir être archéologue, mais j'avais jamais vraiment voulu envisager une carrière en histoire de l'art. Enfin, en tout cas, ça me semblait pas vraiment être une carrière par ailleurs. Et en fait, je voulais faire Sciences Po, comme tout le monde, plus ou moins. Et voilà, ça s'est pas fait, mais c'est très bien. C'était une...
On peut faire Sciences Po et faire l'histoire de l'art, j'ai fait Sciences Po pour ma part.
Formidable. Guillaume Kintz aussi, je crois.
Guillaume Kintz, ça fait Sciences Po.
Donc c'est vrai que j'aurais pu faire ça.
Ça aurait été une meilleure idée. Vous pouviez faire les deux, vous pouviez faire l'école du Louvre et Sciences Po en même temps, puisque maintenant il y a les deux cursus.
C'est vrai qu'il y a le double cursus. Ouais. Mais du coup, non, ça aurait été que l'école du Louvre. Pur cru. Et voilà, ça s'est passé comme ça pour l'entrée à l'école du Louvre. Et ensuite, à l'école du Louvre, il a fallu faire le choix de la spécialité. Et ça, c'était intéressant parce que je m'en rends compte maintenant avec les années. Donc, il y a 12 ans, puisque je suis rentré à l'école du Louvre en 2010. Il a fallu choisir entre les 25 spécialités qui sont proposées. Et j'ai hésité entre la spécialité mode et la spécialité histoire du dessin. Et du coup, je me dis que maintenant, c'est un peu marrant de réussir à croiser les deux. C'était pas du tout prévu. Et ça s'est fait grâce à Watteau. Et Watteau, ça arrivait beaucoup plus tard, pour le coup. J'ai fait tout mon cursus de spécialité en histoire de la mode jusqu'en Master 1, où j'étais, du coup, j'ai fait un Master en mode contemporaine. Et en Master 2, il y a eu un petit déclencheur qui a fait que je me suis tourné vers Watteau. C'était pas du tout un choix d'amour, c'était un choix de raison. En fait, entre mon Master 1 et mon Master 2, il me fallait un autre sujet de recherche. Et je crois que j'avais fait un peu le tour de mon sujet mode contemporaine, qui était très bien, mais j'avais envie de retourner vers de l'ancien. Et j'ai assisté à un séminaire à la Wallace Collection, dont Christophe Martin Voegter, qui est aujourd'hui directeur des châteaux prussiens de la région Berlin-Brandebourg, qui a été mon co-directeur de thèse. Christophe était à l'époque directeur de la Wallace Collection et du coup, en plus de la partie art décoratif, il nous a présenté les tableaux de Watteau qui étaient en restauration. Et quand il nous a présenté la surface picturale, là, pour le coup, j'ai eu une épiphanie. Je me suis dit, ah, c'est quand même marrant, le mélange des vêtements entre les vêtements contemporains, les vêtements de théâtre, les modes anciennes. Est-ce qu'il y a un système ? Est-ce qu'il y a une manière de lire qui donne un certain sens à telle ou telle fête galante ? Pourquoi ? Donc on en a parlé avec Christophe, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit que c'était un super sujet de recherche et qu'il fallait y aller, et qu'il était prêt à me suivre de manière formelle ou informelle. Et voilà, du coup, 7 ans plus tard, la thèse est finie.
Et donc vous avez fait une thèse... En fait, à l'école du Louvre, on peut faire des thèses maintenant, des thèses comme à l'université ?
Alors justement, non, c'est un diplôme de 3e cycle. Donc c'est la nuance un petit peu. En fait, l'école du Louvre n'a pas d'école doctorale à proprement parler, donc le diplôme... pas être sanctionné par le titre de thèse, c'est un diplôme de 3e cycle.
D'accord.
Donc c'est pas un doctorat à proprement parler. Mais du coup j'ai mon doctorat à l'université de Bourgogne.
Oui, donc vous avez fait parallèlement un doctorat.
Ouais.
Alors, c'est ça justement la question.
C'est une co-tutelle, du coup. L'École du Louvre a très tôt mis en place les co-tutelles pour le troisième cycle, puisque justement, l'intérêt, c'est quand même d'avoir un diplôme visé par l'État. Enfin, le pôle de recherche à l'École du Louvre est très compétent et génial, mais c'est vrai que le fait que ce ne soit pas sanctionné par un diplôme visé par l'État crée une certaine frustration. Donc, la plupart des élèves qui sont inscrits au troisième cycle à l'École du Louvre ont une co-tutelle afin d'obtenir un diplôme visé par l'État, donc un vrai diplôme de thèse.
Donc, vous avez fait ces études et Watteau, on l'a vu, qui n'était pas votre premier sujet. Maintenant vous aimez Watteau.
Maintenant, j'aime Watteau, oui.
Bon,
heureusement. Ça serait, sinon, ça aurait été très douloureux, tout ça.
Oui, effectivement. Alors, dites-nous un peu, vous avez déjà écrit des livres. Et donc, vous avez écrit des articles. Vous avez dirigé un colloque. Donc, parlez-nous un peu, peut-être, de ces cahiers du dessin français. Alors, je voudrais dire un mot de ces cahiers du dessin français, qui sont une entreprise de la galerie de Bézère qui court déjà depuis plusieurs années, où il y a eu beaucoup de volumes. Le principe est simple, c'est un essai sur un dessinateur, sur des dessinateurs, dans votre cas c'est plutôt des dessinateurs,
ouais.
Avec un certain nombre de reproductions de très bonne qualité, qui fait un peu la synthèse d'un dessinateur, d'un ensemble de dessinateurs. Vous avez choisi les satellites de Watteau. Alors, pourquoi les satellites? Pourquoi Watteau? On sait bien pourquoi, mais pourquoi les satellites de Watteau?
Pourquoi les satellites de Watteau? C'est parti d'un projet avec un ami collectionneur qui s'appelle Jean-Philippe Vessin, qui est très proche de la galerie de Bézère, et on avait discuté à plusieurs reprises de l'intérêt de créer un cahier du dessin sur les suiveurs de Watteau et en fait sur les satellites immédiats, donc vraiment les maîtres très proches, donc Gillo Vleugels, plus ou moins, Speud, qui est son contemporain, et ensuite c'est 9 artistes en tout, donc il en reste 6, qui sont des suiveurs collaborateurs immédiats, qui ont vraiment été soit dans l'atelier, soit très très proches de Watteau. Parce que maintenant, on sait que Watteau a eu des gens dans son atelier. Donc ça permet un petit peu de relire les choses. Et les dessins qu'on a sélectionnés, enfin que j'ai sélectionnés pour le cahier du dessin, pour les suiveurs, j'ai essayé de faire en sorte de prendre le plus de feuilles inédites ou pas commentées. Ça, c'était le petit défi. Je suis content parce qu'il y a quelques feuilles qui sont vraiment entièrement inédites ou que j'ai relocalisées. Et ça, c'était pas mal. Vous venez de passer les deux, Philippe Mercier par exemple, je suis hyper content qu'on ait pu les reproduire en couleur parce qu'ils étaient...
Mercier est un artiste qui travaille en Angleterre, si je ne me trompe pas.
C'est ça, Mercier travaille en Angleterre et c'est un portraitiste incroyable, et notamment en dessin, c'est assez saisissant, et voilà, c'est ces deux-là.
Et il a travaillé, alors ce sont pour ceux qui auraient le livre que je conseille, Cahiers du dessin français, donc les ateliers de Watteau, c'est le numéro 19 et le numéro 20.
Mmh.
Mais Philippe Mercier, il a travaillé quand avec Watteau, puisqu'il travaille en Angleterre? Comment ça se passe?
Ah, on
par
suppose
exemple,
qu'ils se
c'est intéressant
sont
qu'on
connus,
parle un peu de ces artistes peu connus. Enfin, on
connaît,
tous les historiens de l'art connaissent Philippe Mercier, même s'il n'est pas connu. Il y en a d'autres là-dedans, je vous avoue que je ne les connaissais pas.
C'était le but.
Donc Philippe Mercier.
Philippe Mercier, a priori, il est de passage à Paris vers 1715, si je ne vous dis pas de bêtises. Et c'est un moment où vraisemblablement il a pu voir Watteau, ou en tout cas au moins des dessins de Watteau ou des compositions de Watteau. Et Watteau part entre 1719-1720 à Londres, un moment où Mercier est déjà installé. Et il est aussi très probable qu'il se soit recroisé à cette occasion, ou une fois de plus que Mercier ait vu des tableaux de Watteau. Mercier va être un des premiers pasticheurs de Watteau, au point de faire passer des Mercier pour des Watteau, en les gravant lui-même et en mettant Watteau Pinxit au lieu de Mercier Pinxit, histoire de faire monter la cote. Et du coup, on n'a pas de rapport dans les archives, en tout cas, on n'a aucune info sur le rapport Mercier-Watteau. Mais a priori, dans les interstices chronologiques, on pourrait imaginer 1715 une première fois à Paris et 1720 à Londres.
Donc, c'est vraiment un satellite, c'est pas un élève, c'est
non.
Pas. C'est quelqu'un.
Bref,
Et effectivement, les dessins, ces deux dessins-là sont effectivement très proches de Watteau, avec la même technique que. De Sanguine avec de la pierre noire.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est Philippe Mercier. D'autres que je ne connaissais pas, par exemple, peut-être que mes lecteurs qui sont plus, ou les auditeurs qui sont plus savants que moi les connaissent. Alors évidemment, on connaît tous Lancré et Pater, hein, qui sont les deux plus connus. Donc là, c'est moins une révélation. Pour eux, vous avez réussi à trouver des dessins inédits également?
Est-ce que dans le cahier, j'ai mis des dessins inédits? Je ne me rappelle plus, je crois pas. Pas pour Pater et Lancré. Je crois pas.
Alors en revanche, celui qui s'appelle alors Quillard, on connaît Quillard. Alors lui, ouais. Quillard, il est un élève, il est un.
Quillard, il est dans l'atelier.
Dans l'atelier.
Ça, on le sait. Ouais. On le sait parce que ça se voit, mais c'est la seule raison qui fait que. En fait, ça se voit dans les. Alors il y a deux éléments dans les dessins de Quillard, qui sont des dessins d'après les tableaux ou les dessins de Watteau. Et d'après certains dessins perdus de Watteau, donc ça nous a vraiment permis de, enfin ça a permis à Martin Heidelberg dans les années 70 de démontrer que Quillard était avait vraiment une pratique d'élève dans l'atelier, en tout cas d'assistant. Et ça se voit également notamment dans une peinture du Prado où il y a une main très différente de celle de Watteau qui intervient dans un des groupes du fond de la composition, qui est très proche d'un dessin de Quillard. Donc a priori Quillard aurait quand même pas mal assisté Watteau, pas très longtemps, cela dit, mais il l'aurait vraiment assisté.
Alors, Bonaventure de Bar, qui je pense est un peintre de. Il est né à Paris, mais je crois que c'est un peintre qui venait de l'Est. Non, je me trompe ou je confonds avec quelqu'un.
Non, il est parisien.
Il est parisien, purement ouais. Parisien. Lui, donc, vous dites qu'il n'est pas, il n'est pas de suiveur de Watteau qui soit plus difficile à cerner que lui.
En dessin, c'est. On n'a quasiment rien. C'est donc, vous avez trouvé quelque extrêmement chose, frustrant. Ouais, j'ai trouvé un dessin inédit. Donc, ça, c'était l'aubaine un peu. Je sais plus, je crois qu'on en a mis deux ou trois. Il n'y en a pas tant que ça des bonnes aventures. Du coup, je trouvais que c'était important en fait. Probablement, l'attribution sera remise en cause dans quelques années, je l'espère, parce que ça voudrait dire que le corpus a grandi et qu'on est capable de le penser différemment. Mais je voulais vraiment intégrer Bonaventure. Et quand j'ai commencé à réfléchir au potentiel dessin intégré, je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment rien. Mais je me suis dit que c'était aussi intéressant de montrer l'absence, en quelque sorte, et de voir qu'il y avait encore des corpus à monter, puisque en vrai, ils dessinaient tous. C'était la base de leur pratique. Et je pense que c'est. On va en trouver d'autres, des dessins de Bonaventure, mais il va falloir chercher un peu.
Et ceux que je ne connaissais pas du tout, alors je veux dire, c'est Jacques-Jean Speud et Pierre Angilis. Alors Jacques-Jean Speud, ouais. Dites-moi un mot de cet artiste.
Je crois que c'est mon préféré des neuf. C'est un artiste très particulier, il a un style très reconnaissable. C'est pas toujours très gracieux, mais c'est très reconnaissable, donc c'est assez pratique. Speud, il est un tout petit peu plus âgé que Watteau, de pas grand chose. On n'est pas sûr de sa date de naissance, mais on estime à peu près, grâce à la date de son décès, à l'âge auquel son décès est annoncé, qu'il est dans les années 1680. Speud est assez proche de Gillot, a priori. Il y a tout un système que Martin Heidelberg a aussi bien étudié. Il a refait un article récemment sur son site Watteau Abécédario. Gillot créait des séries de 4 acteurs, donc ça on connaît, c'est des petits dessins qui font 15 par 20, on en a beaucoup, et a priori Speud les copiait en plus grand, et Watteau recopiait soit d'après Speud, soit d'après Gillot. Donc, il y a un espèce de système triangulaire entre les artistes qui visiblement étaient dans le même atelier, ou en tout cas qui ont partagé un certain nombre de feuilles, et l'influence de Speud, Speud c'est un de ces artistes qui est mentionné comme ami particulier de Watteau dans les biographies anciennes. Donc pour les contemporains, c'était quelqu'un d'important dans le cercle de Watteau, et par ailleurs c'était quelqu'un de très important à l'Académie de Saint-Luc, puisqu'il finit quand même recteur de l'Académie de Saint-Luc après avoir été professeur pendant très longtemps. Donc c'est une figure qu'on a un peu oubliée, mais qui a priori avait un poids considérable. Il meurt en 1757, quand même 30 ans après Watteau, et il y a cette espèce de prolongation et de continuité qui, je trouve, est intéressante à réévaluer. J'ai quelques trucs sur Speud que je voudrais publier, mais j'ai pas le temps.
Ça va être très compliqué de distinguer les différentes mains, puisque Gillot, Watteau et Speud, si je comprends bien, ils travaillent ensemble, en fait.
Ouais, vous regarderez les dessins de Speud, on voit vite que c'est lui. Il y a quelque chose de très particulier dans les visages. C'est toujours des tout petits mentons un peu rentrés, un peu rétrognates. C'est pratique parce que c'est un type de représentation qu'on retrouve quasiment tout le temps dans ses dessins. Et il y a une manière un peu lourde de poser la sanguine. Mais pour le coup, Speud s'isole bien. Après, Watteau Gillot, il y a encore quelques doutes, mais ça, j'avoue...
On verra sur Gillot peut-être un peu plus tard.
J'essaie d'éviter de me mouiller.
Et l'autre artiste que je ne connaissais pas, Pierre Angilis, ouais. Né à Dunkerque en 1685, est mort à Rennes en 1734. Mais il est passé par Paris ou il était vraiment resté un artiste provincial ?
Il est passé par Bruxelles, par Paris, par Anvers, par Londres, par Rome, et il finit par mourir à Rennes.
D'accord, donc c'est vraiment un artiste voyageur.
C'est un artiste voyageur et c'est fascinant. Il y a un petit corpus de dessins. Enfin, il y a un corpus. En termes de publication, le corpus de dessins n'a jamais été publié en entier. et on va y revenir parce que c'est vraiment très intéressant, c'est un corpus qui est conservé à Rennes, oui, au Musée des Beaux-Arts, pour une raison hyper intéressante, qui est que Pierre Angélis meurt à Rennes au moment où Robien, le président de Robien,
oui,
est du coup grand collectionneur.
Donc, à l'origine des dessins de...
Exactement, du Musée des Beaux-Arts. C'est ça, hein,
c'est ça,
de
oui,
la collection du Musée des Beaux-Arts. Et Robien achète le fonds d'atelier de Peter Angelis, et en fait de Pierre Angelis, Peter Angelis, il a plein de noms, du coup ça c'est un vrai problème parce que personne l'appelle pareil, et cet ensemble, je crois que c'est une cinquantaine de feuilles, est resté intègre et permet vraiment de connaître la main d'Angelis, voir comment il dessine, pourquoi il utilise le dessin. En fait il y a énormément de proximité avec la manière d'utiliser le dessin de Watteau. Il y a beaucoup de sanguine, beaucoup de pierre noire, pas beaucoup de trois crayons, c'est pas quelque chose qu'Angélis ça fait, mais beaucoup de contre-épreuves par exemple, et ça la contre-épreuve alors c'est pas quelque chose qu'il aura appris de Watteau, c'est probablement quelque chose qu'il aura plus appris de sa formation nordique, qui lui permet d'avoir un dessin dans un sens puis dans l'autre et de le réutiliser à loisir. Ce qui est super intéressant, c'est que quand on regarde la carrière de peintre d'Angélis, il a réussi à infléchir ses différents styles en fonction des pays où il travaillait pour s'adapter à ses clientèles. Et ça, c'est incroyable. Le corpus est assez important, bizarrement. Je ne saurais pas vous dire, je pense qu'on a au moins une centaine d'œuvres.
D'accord.
Donc, c'est quand même...
Et donc, une cinquantaine à Rennes.
De dessins. Et après, les peintures.
C'est une centaine de peintures, vous voulez dire.
Il y a plein d'ateliers, en fait. Alors, soit c'est son atelier à lui, parce qu'il avait la capacité de mettre en place des ateliers itinérants, je pense, et qu'il devait avoir une certaine puissance d'appel pour avoir autant produit en étant aussi itinérant. À cette période, c'est qu'on avait quand même une certaine renommée, j'imagine, en arrivant dans une ville et en étant capable de mobiliser un réseau d'apprentis, d'assistants. Parce qu'en vrai, il a quand même beaucoup peint pour une personne qu'on a autant oublié.
Des peintures, on en trouve où, par exemple ?
Ça passe beaucoup en vente. Il y en a une ou deux à Rennes, si je ne dis pas de bêtises, du coup, qui sont entrées dans les collections plus tard, en lien avec la collection de dessins, puisque du coup, on retrouve souvent les dessins dans les compositions, parce que c'est vraiment du dessin d'utilité. C'est pas du dessin Beaux-Arts pour le dessin autonome. Et pour le coup, aucune feuille d'Angélis n'est vraiment un dessin autonome. On sent que c'est des dessins qui sont faits sur le vif pour être utilisés à terme. Et ça passe beaucoup en vente. Ça, c'est assez fascinant. Il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a à Yale ou à Princeton, j'ai un doute.
Il n'y a pas en France, dans les musées français, à part à la Rennes ? Non.
Je crois pas.
Et vous avez pu étudier vraiment le fond de Rennes ou est-ce que...
Le fond de Rennes, pas encore, mais j'ai hâte. J'ai hâte, c'est dans les projets. D'accord. C'est dans les projets d'aller tout voir à Rennes.
Ça, c'est une exposition, peut-être que Guillaume Caseroni doit être très intéressé par ce genre de projet, de redécouvrir des choses.
S'il est intéressé, qu'il m'écrive avec plaisir.
Et ben voilà, j'espère qu'il écoutera cette émission. En tout cas, on se chargera de lui dire que ça serait un beau projet, finalement, de faire une exposition dossier sur Angélis à Rennes. Ça serait...
Oui, puis c'est un intéressant projet de publication, en vrai, je pense, parce que c'est un corpus qui est circonscrit, qui est intègre, qui a une super provenance et un historique imbattable, pour le coup. C'est quand même l'avantage des fonds d'atelier. Et ça permettrait de faire le point sur la carrière. Donc ça pourrait être vraiment bien.
Alors, Vleugels, donc, bizarrement, moi, je connais pas très bien Watteau, hein, je dois le dire. J'associais pas spontanément Vleugels et Watteau.
Ils sont super copains. On le sait, toutes les vies anciennes le disent. Vleugels dessine beaucoup avec Watteau. On a beaucoup de dessins qui sont faits côte à côte, en quelque sorte, notamment d'après les maîtres, d'après les dessins de la collection Croza. On sait que, du coup, Vleugels et Watteau ont copié en même temps. Et ils collaborent pas vraiment, ils collaborent pas du tout, à vrai dire, mais ils ont cette proximité d'apprentissage, en tout cas de cheminement intellectuel de la peinture. Et qui partagent une passion pour les Vénitiens, évidemment, comme la plupart des artistes au début du XVIIIe. Et c'est intéressant de voir ce que j'ai essayé de montrer dans le cahier, c'était plus l'aspect technique. Vleugels, par exemple, utilise la contre-épreuve. Il retravaille ses contre-épreuves pour pouvoir les réutiliser dans différentes compositions. Et il y a un lien assez intéressant entre certains dessins de Watteau qui se retrouvent dans les compositions peintes de Vleugels. Et ça, on le sait parce que du coup, ils s'échangeaient des dessins, vraisemblablement. On n'a pas de traces archivistiques, mais quand on retrouve littéralement un dessin dans une composition, c'est qu'a priori, il y a eu transposition. À un moment, il y a eu quelque chose. Donc, c'est plus un rapport d'amitié qui les a unis et d'apprentissage, de confirmation de leurs apprentissages respectifs.
Alors, maintenant qu'on a parlé des satellites de Watteau, arrivons à Watteau lui-même, puisque Donc vous avez fait votre thèse sur... Là, finalement, les dessins des satellites, on est loin de la mode.
On est loin de la mode.
Donc on est purement dans le dessin.
Sauf pour Mercier, peut-être.
Mais... Sauf pour... Oui, pourquoi ? Parce que...
Oh, parce que Mercier, c'est toujours très beau. Et il est phare, il représente bien les vêtements. Donc c'est un des seuls, on va dire, qu'il fait, je crois.
Et donc, Watteau, votre thèse, c'est Watteau et la mode.
Ouais.
Alors, quelle est votre thèse, justement ?
Quelle est ma thèse ? Alors, à la base, le système de réflexion, enfin, la thèse de base, on va dire, j'espérais trouver un système. J'espérais mettre au jour une manière de lire les tableaux. Après, je pense que c'est l'illusion de tout historien de l'art qui se lance dans un sujet comme ça. J'espérais me dire que l'utilisation de la fraise chez les femmes faisait écho à tel type de production parce que c'était une référence très marquée, que du coup, j'allais pouvoir relire les différentes pièces de théâtre qui auraient pu inspirer Watteau. Pas du tout. Au final, en fait, la manière dont j'ai axé ma réflexion, c'était quelque chose de très factuel. Je suis parti d'une citation contemporaine, qui est une citation de Dubois de Saint-Gelais, qui réalise une espèce de guide touristique parisien et il décrit dans le Palais Royal un tableau de Watteau. Et pour chaque artiste, il fait un petit laïus, une espèce de biographie contemporaine, en donnant quelques éléments de lecture qui lui semblent pertinents, en tout cas qui pour lui sont... intéressant, et Dubois de Saint-Gelais écrit que Watteau peut être considéré comme le peintre de l'histoire des modes de son temps. Alors, autant vous dire que quand j'ai trouvé cette citation, c'était du pain béni, puisque du coup c'était l'exergue de ma thèse, et j'ai commencé comme ça en me disant, ok, en fait en 1727, 6 ans après la mort de Watteau, on considère qu'il est peintre des modes de son temps. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi? D'un point de vue du dessin, c'est vrai. Il y a une précision, une recherche, une compréhension du tissu, du vêtement, de la manière dont le vêtement est monté. Ça, il y a plusieurs feuilles du coup, que j'ai réisolées et que j'ai réétudiées où il pousse vraiment le détail jusqu'à détailler les coutures. Ce qui est quand même...
Mais de vêtements contemporains,
de vêtements contemporains.
Que ces modèles portaient.
Ouais, tout à fait. Donc, notamment pour des robes féminines. Et il y a une série, et ça pour le coup, ça m'a permis vraiment de détailler un argument d'intérêt vraiment vif de Watteau pour le vêtement. Il y a une série qui est réalisée en 1715, pardon, qui s'appelle Les Persans. Donc c'est l'ambassade persane qui arrive à Paris, qui reste 6 mois. Et c'est une série de 15 dessins, je crois, un peu moins, 12. Et il y a plusieurs représentations d'un page qui est habillé avec donc une petite veste courte, un petit pourpoint court et une chemise et un sarouel. Et en fait, on voit qu'il a demandé au page de prendre différentes postures. Et au fur et à mesure des postures, le vêtement est mis d'une telle façon que Watteau peut rendre le patron en fait, du vêtement, et notamment sur la veste. Et ça, pour le coup, j'avoue qu'en le revoyant, et dans le processus d'écriture, je me suis dit que c'était vraiment pas anodin quand on voit, en vrai, les dessins des contemporains, mais ne serait-ce que Gillot, on le disait là sur les satellites, en fait, quasiment aucun d'entre eux ne représente le vêtement pour son intérêt matériel. Et Watteau, pour le coup, il va vraiment, et je trouve que sur l'intégralité du corpus, il y a quand même un certain nombre de dessins qui sont vraiment intéressants à concevoir du point de vue du vêtement, du point de vue des accessoires. Ça, du coup, c'est tout mon premier chapitre. C'est vraiment une analyse factuelle du dessin à la peinture, mis en regard avec les archives et les mentions contemporaines sur l'utilisation. Par exemple, un élément que j'ai relu, c'est l'utilisation des voiles. On parlait souvent de veuves. En fait, a priori, ça n'a rien à voir avec le veuvage, parce que clairement, le contexte des fêtes galantes, on a beau avoir un voile noir, quand on est habillé en rose et qu'on est en train de faire la fête dans un parc, a priori, on est quand même loin du veuvage.
Alors on est content que le mari soit
là. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas une très bonne manière de se présenter au monde, mais enfin, pourquoi pas. Et en fait, en relisant les sources contemporaines, je me suis rendu compte que c'était pile au moment de la succession d'Espagne. Et en fait, il y a des ambassades, il y a des délégations espagnoles qui arrivent à ce moment-là. Alors la seule zone grise que j'ai, c'est que malheureusement, on ne décrit pas les vêtements des femmes qui viennent à la cour de France à ce moment-là. Mais du coup, les échanges de pratiques, en fait, sont... Enfin, c'est le propre de la mode, c'est un échange de pratiques, c'est des transferts culturels d'us et coutumes, on va dire. Et en fait, pour moi, ce système des voiles noires qu'on voit sur les dessins et sur les tableaux dans les fêtes galantes, rien à voir avec le veuvage, c'est juste la mode espagnole qui s'importe et qui se met en place.
Donc ce sont tous les tableaux de Watteau, ce sont des vêtements contemporains ou pas du tout?
Il y a un gros mélange compliqué. Il y a donc le vêtement contemporain, ça c'est super, c'est la partie un peu facile et c'est vraiment intéressant parce qu'il a, il a un aspect très documentaire et les historiens de la mode ont très souvent lu la mode 1700-1720 au prisme de Watteau, ce qui n'est pas toujours une bonne idée parce qu'il y a quand même beaucoup de réinventions, mais le vêtement contemporain tient une bonne partie. Ensuite c'est le vêtement de théâtre, évidemment la Commedia dell'arte qui tient une grosse part aussi dans les compositions de Watteau, et ensuite le vêtement ancien. Et ça, c'est super parce que du coup, ça m'a... c'est donc mon deuxième chapitre, pour le coup, exotisme et historicisme. Et la perspective historique est super intéressante parce que du coup, ça m'a permis de creuser vraiment comment, quelle connaissance il a du vêtement ancien, par quoi ça passe, est-ce que c'est uniquement les gravures, est-ce que c'est les fripes aussi, parce qu'en fait, on oublie souvent le système de la fripe, mais en plus, Watteau est né en 1684 à Valenciennes. Valenciennes, à ce moment-là, est française depuis seulement 6 ans, puisqu'elle est rentrée dans le giron français avec le traité de Nimègue, de la paix de Nimègue, pardon, en 1678. Donc en termes de tradition et en termes de ce qu'on trouve dans les friperies en 1684 jusqu'en 1700 où il arrive à Paris, a priori, c'est plutôt des vêtements de tradition nordique, et du coup plutôt des vêtements 17e. C'est quand même un sacré gap en termes de... Oui, en fait, en termes de forme de vêtements, qui probablement l'a un peu marqué. Donc ça, c'est la partie psychanalytique de l'art que j'aime pas trop. Du coup, j'y suis allé un peu avec des pincettes, même si j'ai étayé avec des archives. On sait qu'il était voisin de Fripier, par exemple. Ça, c'est un élément qui peut paraître complètement anecdotique, mais en fait, on sait que... Alors, je sais plus, j'ai consulté 3 recensements de l'ancienne. Je sais plus en quelle année c'est. Mais il est assez jeune. Je crois qu'il a entre 4 et 7 ans, quelque chose comme ça. Et il vit Place Saint-Jean à Valenciennes. Et vraiment, dans la liste de recensements, 4 des 5 voisins les plus proches sont fripiers. Probablement avec leur échoppe en bas.
Et les vêtements de théâtre de l'époque, même, ils étaient... c'était pas des vêtements contemporains, où on faisait des vêtements d'invention totale, d'un complète, qui ensuite ont... Enfin, il n'y avait pas de rapport entre les vêtements de théâtre, les vêtements de et la mode contemporaine.
Alors, ça s'est inversé. Il y a le vêtement de théâtre a eu des conséquences sur la mode. Ça, c'est super intéressant pour la robe volante. J'ai essayé de réétayer un peu, mais c'est une zone assez compliquée à étudier. En gros, on considère que... Alors déjà, pour répondre à votre première question, c'est beaucoup de vêtements d'invention. D'invention... De réinvention plutôt.
Les vêtements de théâtre.
Les vêtements de théâtre.
Ouais. Et Watteau lui-même inventait des choses complètement qui ne voyait nulle part ailleurs aussi.
Il y a quelques éléments qui sont inventés et ça, c'était la partie un peu compliquée parce que pour le coup, l'invention pure, c'est quand même difficile à démontrer.
D'autant plus qu'on n'a pas, les vêtements de théâtre conservés pour.
On en a très très peu. Très très peu, et en fait, les vêtements de théâtre qu'on a conservés du 18e siècle, c'est des vêtements un peu canoniques. Donc Harlequin, Crispin, j'allais dire Colombine, mais justement, ça me permet d'arriver à mon deuxième argument. Jusque-là, Harlequin et Crispin, par exemple, c'est des éléments qui sont repris de la Commedia dell'arte du 15e, 16e, et on réinvente ces mêmes vêtements, on va dire, mais toujours avec les mêmes typologies, pour que justement tout le monde comprenne ce qu'on est en train de regarder. Pour les femmes, c'est un peu différent, il n'y a pas de vêtements fixes. Donc par exemple, Colombine, pendant très longtemps, elle va être sur les planches de théâtre avec des vêtements contemporains. Et c'est ça qui va un peu créer l'inversement de vapeur où les vêtements de théâtre inventés pour le théâtre vont avoir parfois une conséquence sur la mode contemporaine. Et on a ça du coup avec la robe volante qui est annoncée par l'Andrienne, qui est donc le nom d'une pièce de Terence à la base, qui est reprise au début du XVIIIe siècle en tant que parodie en quelque sorte, enfin parodie plutôt... comédie, là où l'Andrienne à la base était un peu plus tragique. Et la femme qui monte sur les planches a une robe nouvelle, qui est une espèce de négligé, alors qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui est en train de se mettre en place, sauf qu'elle le porte sur les planches du théâtre, alors que ce n'était pas du tout censé être porté en public. Et du coup, le vêtement prend le nom d'Andrienne, et ainsi de suite, évolue jusqu'à devenir la robe volante, qui est la robe la plus portée entre les années 1720 et 1740-45. Et ça, pour le coup, c'est un apport du théâtre. Après, un apport du théâtre qui a vraiment mis un coup de projecteur sur un vêtement qui était déjà porté en extérieur. Ça, ça a été assez difficile de faire la balance. En fait, l'histoire de la mode, c'est une discipline formidable parce qu'elle permet de croiser beaucoup d'approches, qui a évidemment une approche visuelle, une approche matérielle, une approche archivistique, et en fait de réussir à tout réunir grâce à l'histoire de l'art, vraiment grâce à l'histoire des images et à la culture visuelle. Ça m'a permis de retravailler vraiment certains points, de refaire des chronologies, de remonter les historiographies. C'était très plaisant, aussi un peu frustrant, parce que du coup, on se rend compte que... Alors, je pense pas que ce soit par fainéantise, mais il y a beaucoup de redites, d'éléments qui sont pas vérifiés dans les historiographies récentes, et c'est toujours un peu frustrant, parce qu'en vrai, on peut de plus en plus facilement vérifier. Maintenant, je trouve.
Alors, j'allais venir à ça peut-être parce que moi, une chose, c'est vrai que la mode, je connais très mal la mode, et quand on voit un tableau, je pense qu'il y a beaucoup d'historiens d'art, très peu d'historiens d'art plutôt, qui peuvent dire ce tableau ne peut pas être de cette date parce que le vêtement porté est beaucoup plus tardif ou est plus tardif. Ça permet, c'est un élément de datation qui est très important, je pense, pour en dehors de l'aspect stylistique, même d'attribution peut-être. Et il y a assez peu d'historiens d'art finalement qui connaissent ça. Est-ce qu'il y a. Je connais pas bien la mode, très mal la mode, comme je le disais. Il y a beaucoup de livres qui permettent... Est-ce qu'il y a des répertoires de vêtements qui permettraient de savoir que tel c'est une question de néophyte, hein. Et c'est un peu dommage. Non, c'est une bonne question. Mais c'est une question que finalement, je ne devrais pas me poser parce qu'un historien d'art devrait connaître la mode, en fait. C'est ce que je pense vraiment. Est-ce qu'on peut trouver facilement... On s'adresse à vous, comment trouver, comment dater un tableau grâce à la mode, en fait, c'est ça.
C'est vraiment une très bonne question. En vrai, j'allais vous faire le parallèle avec l'histoire des arts décoratifs. En fait, ça fait partie des arts déco. Je suis historien de l'art. Je connais pas toutes les dates de l'évolution des formes des commodes.
Exactement. Et ça, c'est des choses quand même importantes. Donc, est-ce qu'il y a une bibliographie utile à avoir dans sa bibliothèque ?
Il y a une bible qui s'appelle L'histoire du costume en Occident de François Boucher. Alors, ça prête un peu à confusion parce que du coup, il a le nom du peintre, mais ça n'est pas le peintre. François Boucher, qui était conservateur, ce qui est maintenant le Musée des Arts Décoratifs et qui à l'époque était l'UCAD, l'Union Centrale des Arts Décoratifs. François Boucher est resté conservateur mode assez longtemps et au bout d'un moment, s'est justement posé cette question je crois que la première publication, c'est 67, 68, si je ne dis pas de bêtises. C'est poser cette question de il faut entamer une histoire de la mode au prisme des avancées du XXe siècle, puisqu'il y a évidemment eu des histoires plus anciennes. Dès la fin du XIXe siècle, les historiens, Auguste Racinet par exemple, va faire une histoire de la mode, un dictionnaire de la mode. Ça va se perpétuer, c'est un champ qui est assez jeune en vrai, on considère que ça commence fin XIXe. Les premières publications, les premières réflexions sur l'histoire de la mode, c'est fin XIXe. Ça s'est intensifié avec les années, avec le XXe siècle, avec la constitution de grandes collections nationales et internationales, à vrai dire. Le Victoria and Albert Museum à Londres fait un travail de fond incroyable sur ses collections de mode ancienne, qui permet vraiment d'avoir des clés de lecture extrêmement, extrêmement précises d'un point de vue matériel, iconographique, archivistique. Donc ça avance de mieux en mieux, mais il reste toujours un peu... Mais je pense que c'est comme tous les champs de recherche qui sont en développement, il y a toujours cette... on prend ce qu'on connaît. Et puis on va garder ce qu'on connaît parce que c'est quand même plus facile. Et après, c'est la beauté de la recherche et c'est pour ça qu'on le fait.
Est-ce que vous voyez de temps en temps passer, soit en vente, soit publié dans des revues savantes, des tableaux dont on dit qu'ils sont d'un peintre et donc vous savez, vous, parce que vous voyez qu'ils portent quelque chose qui ne peut pas, ou une datation qui n'est pas possible, et finalement l'auteur ne l'a pas vu ou l'expert ne l'a pas vu?
Oui, mais comme ça, nous arrive tous dans nos domaines de spécialité de voir qu'une attribution n'est pas bonne. Est-ce que ça tient... Là, on parle vraiment spécifiquement au prisme de la mode.
Oui, au prisme de la mode.
Pas connoisseurship. Parce que du coup, j'avoue que
maintenant... Sans parler du connaisseurship, parce que des fois, on vous dit ça, c'est n'importe quoi. Mais là, il y a des choses qui sont... À la fois, le style, tout le monde a un avis, on peut dire ça ressemble. Les experts ne sont pas forcément d'accord. Mais quand on sait qu'un vêtement n'existait pas avant telle date et que le tableau est censé avoir été peint à une date où il n'existait pas, on peut se dire qu'il y a quand même une erreur.
Il y a une erreur, ça arrive.
C'est un fait, c'est presque une preuve.
Oui, c'est une preuve. Après, c'est toujours, j'allais dire, c'est difficile à faire entendre. De moins en moins, je crois que le public friand d'histoire de l'art est de plus en plus ouvert à l'utilité de l'histoire de la mode pour les datations, pour les questions de style, même sur les questions d'école. Les tableaux, vous savez, qui sont entre école anglaise et école française, par exemple. Parfois, il y a des éléments où on sait que non, tel type de bijou n'est pas apporté à telle période en France. Donc,
c'est plutôt... Parce que la mode, mais aussi la mode, c'est non seulement les vêtements, c'est les bijoux également.
Bien sûr. Les accessoires, les matériaux, il y a tout un tas de petits éléments comme ça qui jouent. Après, je vous avoue que sur le domaine de spécialité, enfin, le domaine de la thèse, en tout cas, 1700-1730, Paris. Je vois pas souvent passer des tableaux qui me permettent de dire...
Vous devez connaître la mode pas seulement de cette période-là.
Oui, bien sûr, parce que du coup j'ai fait toute ma licence, donc j'ai on fait quoi, 14e siècle, 21e siècle. Donc, de manière générale, oui, j'ai une perspective plus générale pour les datations.
Est-ce que cette thèse, vous allez la publier ?
Non.
Pourquoi ? Vous savez déjà que non, y a pas de, vous n'avez pas envie de la publier.
Alors, je me doutais que vous alliez me poser la question. Alors, ce n'est pas un désir pour l'instant. Je n'ai pas envie de le faire. Donc, évidemment, tout le monde me dit qu'il faut le faire. Je ne suis pas convaincu de l'utilité.
Alors là, c'est étrange. Parce que moi, une des choses que je regrette, c'est toutes ces thèses, tout ce travail fait pendant 4-5 ans. Mm-hmm. Vous l'avez fait rapidement, votre thèse, il y a des fois de 20 ans. Mm-hmm. Ces thèses qui sont finalement d'or, mais qu'on ne peut pas consulter, des fois sur des artistes que j'aimerais mieux connaître et elles ne sont pas publiées.
Ouais.
Et vous dites non, finalement, ce n'est pas grave.
Alors, je ne sais pas si ce n'est pas grave. Je pense que je préfère en faire 4 bons articles ou plus qui apportent vraiment quelque chose plutôt que de faire un énième livre sur Watteau et de pas forcément, sur le format du livre, apporter vraiment de... si ça apportera des nouveautés. Je sais pas, je vous dis non parce que j'ai pas envie de le faire. Je pense que c'est ça en vrai la réponse.
Travailler, c'est ça ?
Oui, parce qu'il faut tout réécrire. Et enfin, ça a été une grosse discussion pendant la soutenance et effectivement...
Est-ce que des fois, il ne faudrait pas publier finalement de manière simple comme elle a été écrite, comme elle a été présentée, comme elle a été soutenue, la thèse ? Au moins, on a les éléments.
Ouais, c'est vrai. On aurait le manuscrit et ça serait réglé. Écoutez, je ne sais pas. On verra d'ici quelques années. Peut-être qu'on refera une émission dans quelques années. J'aurai publié ma thèse. Mais pour l'instant, ça ne me semble pas urgent.
Alors, vous n'avez pas publié votre thèse, mais en revanche, vous publiez donc des articles. On pourra peut-être y revenir. Également, vous êtes le coordinateur, c'est bien cela ?
Directeur scientifique, oui.
Directeur scientifique d'un colloque qui a eu lieu l'an dernier à l'occasion de Fine Arts Paris. Je rappelle que, effectivement, ces salons parisiens sont souvent l'occasion d'organiser, que ce soit le Salon du Dessin, Fine Arts, qui maintenant est la Biennale Fine Arts, de faire des colloques, ou des expositions même, et des colloques avec une publication qui vient de sortir, là, que j'ai sous les yeux, Réseaux et influences autour d'Antoine Watteau. Donc là, on n'est plus dans la mode.
Non.
On est vraiment autour de Watteau, on est vraiment purement dans l'histoire picturale. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus donc, sur les auteurs, sur les articles qui vous ont... Il y a des articles très divers. Hein. Alors, il faut quand même dire que c'est sous la direction de votre direction, avec évidemment des mécènes dont on peut peut-être donner les noms.
Mm-hmm.
Si je ne me trompe pas, donc vous avez donné les noms pour pas que je fasse d'erreur.
Lionel Sauvage et Daniel Thierry.
Voilà, Lionel Sauvage, qu'on connaît, qui est un grand collectionneur, mécène et amateur de Watteau. Et Daniel Thierry, qui est également un grand collectionneur et mécène, et qui, par exemple, et s'occupe de l'association, si je ne dis pas de bêtises, de l'École des Beaux-Arts, qui se charge d'acheter, par exemple, des dessins pour l'École des Beaux-Arts. Donc, voilà, on les remercie pour cette publication qui est une belle publication, hein, vraiment, elle est très riche, avec beaucoup de... Alors, je prends au hasard, je ne sais pas, par exemple, Antoine Watteau et Jean-Baptiste Pater, nouvelle perspective matérielle sur les dessins du maître et son élève. Là, on revient aux élèves et aux satellites de Watteau. Avec Pater et Lancret, vous les considérez comment par rapport à Watteau? Bon, évidemment, c'est pas aussi bien que Watteau, mais c'est quand même de très beaux artistes.
J'ai fait la moue, mais c'était pas pour ça.
Ouais.
J'ai fait la moue parce que je pense que les années avançant, en fait, je les considère comme des élèves.
Des élèves, c'est ça. Parce qu'on les considérait avant comme des collaborateurs, comme des...
On disait que Watteau avait pas d'élèves.
Des suiveurs. On disait qu'il n'avait pas... En fait, ils étaient dans son... Ils ont appris de Watteau.
Et pour le coup, Pater et Lancret, on sait qu'ils étaient vraiment dans l'atelier.
D'accord. Ouais,
ils sont vraiment passés dans l'atelier, on a des dessins. Justement, c'est la communication de Florence Raymond que vous citiez. Des dessins de Pater d'après les dessins de Watteau. Et pour le coup, il n'y a pas de doute. Et Florence a fait un travail incroyable. Elle a permis de recadrer chronologiquement les moments où Pater avait pu réaliser ses copies. Et c'est extrêmement utile. Je pense que c'est vraiment un élément qui va changer un peu l'historiographie de Pater et permettre de relire vraiment la carrière et de la comprendre beaucoup mieux.
Alors, un peintre dont on ne pensait pas qu'il était, d'ailleurs, c'est pas vraiment ce qu'il dit, hein, mais Boucher, élève de Watteau, c'est un peu provocateur.
C'était tout à fait provocateur et je suis très content que Rémi ait choisi ce titre.
Rémi Freyermeux.
Ouais, qui vient de sortir le dernier cahier du dessin, d'ailleurs.
Sur
les élèves de Boucher.
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait, effectivement, oui.
Oui, je suis hyper content du titre de Rémi, parce qu'on en a beaucoup discuté. C'est aussi le fruit Alors je connais du coup certains des auteurs, évidemment, puisqu'on travaille sur les mêmes sujets, et au bout de quelques années, on finit par connaître quand même son milieu. Et on a beaucoup discuté avec Rémi de cette question de Boucher, élève de Watteau. Et en fait, le fait que Boucher ait gravé 120 dessins de Watteau pour le recueil Julienne, c'est quand même une forme d'apprentissage, mine de rien. Cette pratique de la gravure, du dessin d'après un dessin, de la gravure, vraiment de passer du temps à comprendre la manière d'un artiste de dessiner pour la transposer dans le cuivre et la rendre reproductible. Donc il y avait cet aspect-là. Il y a beaucoup de rapprochements formels qui sont très pertinents. Et Rémi conclut son texte en reprenant la manière de Boucher lui-même d'apprendre à ses élèves, qui est exactement la même manière dont il a appris de Watteau, plus ou moins. Alors que Watteau était mort, hein, évidemment. Mais c'est une espèce d'apprentissage à distance, en quelque sorte, qui a laissé des traces, je pense, assez considérables dans l'œuvre de Boucher.
Alors, Louis-Antoine Prat, lui, il s'intéresse aux imitateurs, aux attributions erronées. Mm-hmm. Donc, vous nous avez parlé de Philippe Mercier,
oui,
qui faisait des faux Watteau. Il y a beaucoup, beaucoup de faux Watteau, et beaucoup de faux Watteau, ouais, dès l'époque de Watteau.
Dès l'époque de Watteau, mais qui, du coup, ont une valeur un peu différente maintenant, puisqu'on les considère plutôt comme des copies d'après. Et pas des œuvres de faussaires.
Ce sont toujours des copies ou ça peut être des dessins enfin, dans la manière d'eau?
Oui, il y a des manières d'eau aussi. Les manières d'eau, c'est plus compliqué pour le coup. Les manières d'eau 18e posent souvent la question de potentiellement une bonne main. Parce que si on arrive à mettre manière d'eau, c'est que c'est plutôt de qualité. Donc ça, c'est un peu plus difficile. Mais Louis-Antoine Prat s'est concentré sur les faussaires un peu plus tardifs. C'est majoritairement des faux 19e et 20e, si mes souvenirs sont bons, qui permettent de se rendre compte aussi de la postérité de Watteau et de l'intérêt que le marché avait à avoir des faux Watteau. Parce que finalement, ça a aussi entretenu un marché d'une certaine façon et ça a permis à des collectionneurs d'espérer avoir des Watteau qui n'en étaient pas.
Donc il y a beaucoup d'auteurs, on ne peut pas tous les citer. Vous voudriez parler d'une ou deux communications complémentaires qu'on n'a pas évoquées. C'est intéressant, c'est que c'est le mélange il y a des collectionneurs, il y a Christophe Janet qui est un marchand et très bon, un extraordinaire œil, comme on dit, qui parle du séjour de Watteau à Londres.
Ouais.
Donc on en parlait à l'instant en lien avec Philippe Mercier. Des conservateurs, Johan Rimaud qui est conservateur à Besançon, Guillaume Farou qui est conservateur au Louvre, Nicolas Le Sûr qui est un des très grands historiens d'art, je trouve, du XVIIIe siècle et qui ne fait pas que ça, qui est aussi qui a aussi un métier à côté, ce qui est de financier, enfin de
incroyable.
Conseil. Je sais pas comment il fait. Et il va sortir bientôt, ça je le signale, il va bientôt sortir un ouvrage que tout le monde attend énormément, qui est le Pierre Subleyras dans la collection Artena. Donc voilà, vous avez énormément d'auteurs. Vous voulez en citer un qu'on n'aurait pas évoqué?
J'aimerais surtout.
Et désolé pour ceux qu'on n'évoquera pas, mais je conseille à tout le monde d'acheter ce livre qui est vraiment très bon marché, 25€. Donc réseau et influence autour d'Antoine Watteau. Oui, donc.
Ce que j'aimerais surtout souligner, c'est qu'on a réussi avec Lionel, parce que du coup, c'est un projet que Lionel Sauvage m'a soufflé. Et une fois qu'il me l'a soufflé, il m'a dit: ok, débrouillez-vous. Maintenant, vous le faites. On a eu ce projet à partir du Covid, mars 2020, avril 2020, on était confinés. Voilà, on s'appelait à peu près tous les jours pour mettre en place une note d'intention, essayer de démarcher un petit peu, voir à qui on pourrait s'adresser pour le colloque, parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose pour le tricentenaire de la mort de Watteau, du coup 1721-2021. Donc du coup, on a réussi à faire ça avec Fine Art, et c'était vraiment super. Et un des points d'orgue qu'on avait mis tous les deux, c'est vraiment super de faire parler la génération dont on sait qu'elle a déjà beaucoup travaillé sur Watteau, mais il faut faire intervenir les jeunes et il faut diversifier.
Bah, comme la Tribune de l'Art.
Tout à fait. Du coup, c'est pour faire une connexion avec votre introduction de cette émission, et en vrai, je trouve que c'est essentiel et c'est important aussi, ça montre un passage de flambeau.
D'autant plus que c'est... Alors, passage de flambeau va encore rester quelques temps, si vous le voyez bien.
Oui, bien sûr. Bien
mais
sûr,
je
bien
trouve sûr. C'est... Non, mais je trouve extraordinaire. Il y a énormément de jeunes historiens de l'art excellents. Moi, je dois dire qu'il y a vraiment une génération fantastique, aussi bien chez les universitaires que chez les conservateurs, que chez les marchands également. Enfin, un peu partout, il y a vraiment une excellente génération d'histoire de l'art, d'historiens d'art, dont vous êtes un exemple. Actuellement, vous travaillez sur quoi?
Alors actuellement, maintenant que le livre est sorti, je suis soulagé, ça c'est terminé. Là pour l'instant, je donne cours à l'École du Louvre et à Parsons, The New School, du coup, qui est une fac américaine qui a un campus à Paris. Donc ça m'occupera jusqu'à la fin du semestre.
J'écris quelques articles en même temps. Et à partir de janvier, je vais travailler un nouveau projet, du coup, avec Denis Calando, qui est un héritier de collectionneur, descendant de collectionneur. C'est plus correct, descendant de collectionneur. Dont l'arrière-grand-père avait une collection de 3000 dessins.
La collection Calando qu'on connaît bien. On va y revenir tout de suite. On va y revenir, mais vous dites l'école, vous parlez d'une école américaine qui a un campus à Paris, je ne connais pas. Vous pouvez en dire deux mots ?
Parsons, oui, c'est vraiment super. c'est vraiment super. C'est bizarre de dire ça comme premier mot. C'est une école d'art appliqué. À la base, en fait, le campus de Parsons à New York est aussi bien art libéraux que art appliqué. Mmh. Donc, c'est autant une histoire de l'art que philosophie de l'art et que design et architecture. Tout ça est mélangé. Et du coup, il y a une douzaine d'années maintenant, Parsons New York a décidé d'ouvrir un campus à Paris pour décentraliser un petit peu déjà de New York et potentiellement offrir aux Européens, aux Proche-Orientaux et aux campus asiatiques une possibilité d'être un petit peu plus près ou en tout cas d'avoir une alternative au campus new-yorkais. Et donc ça fait 10 ans maintenant et moi j'y interviens pour un cours d'histoire de l'art au prisme de la culture matérielle. Du coup, qui est quand même globalement ma deuxième casquette. Et j'enseigne en première année. Et c'est,
en français ou en anglais ?
En anglais. Et c'est fascinant de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça peut apporter certaines frustrations de temps en temps. Mais c'est génial de pouvoir transmettre et de voir, de se remettre aussi dans un processus d'apprentissage, dans une autre langue et de le contact avec les élèves. Moi, je trouve que c'est un truc.
Alors, une chose que vous n'avez pas citée, mais que je vois dans votre. Parce que je vous ai demandé votre CV, comme ça, j'ai tout ce que vous avez fait depuis. Il y a beaucoup de choses déjà. Vous avez travaillé avec Sarah Catala sur l'exposition d'Eric Coatelem, donc oui. C'est dont je vais parler sur le site, que je signale aux auteurs de la Tribune de l'Art, vous pouvez aller voir une belle exposition Fragonard, c'est pas assez fréquent, en tout cas c'est encore moins fréquent dans une galerie, ce sont uniquement des œuvres de collections privées, et donc il y a un catalogue, et donc vous avez également participé à cela.
Oui, on a travaillé ensemble avec Sarah, m'a demandé de travailler avec elle, et ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que, pour être très honnête, on était très amis, à la base, et parce qu'on est 18e et qu'on se connaissait, et c'était la première fois qu'on travaillait ensemble sur un projet.
On travaille notamment sur Hubert Robert, Fragonard, et Watteau, c'est un... Fragonard et Watteau...
C'est
le même siècle.
Connexion un peu distendue, voilà. C'est le même siècle. Et du coup, Sarah m'a proposé de travailler avec elle, et j'étais vraiment super content, parce qu'en fait, c'était le premier projet sur lequel on a travaillé tous les deux, et du coup, ça nous a donné envie d'en faire plein, parce que c'est vraiment super bien passé, et qu'on travaille de la même façon, et... En toute bonne intelligence, et c'est très agréable de travailler avec Sarah, et on a fait ça pendant un peu moins de 2 mois. On a fait très rapidement ce catalogue et on s'en est plutôt bien sorti, je crois. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez.
Vous êtes également, moi j'en pense beaucoup de bien, c'est pour ça que j'engage les auditeurs à aller voir cette exposition. Vous êtes membre du comité scientifique du projet d'étude catalogage des dessins de Nicolas Pineau. Alors, membre d'un comité scientifique, c'est quand même assez prestigieux, puisque, encore une fois, ça prouve que vous avez être connu par les musées. Qu'est-ce que c'est que ce projet de Nicolas Pineau ? Vous pouvez en dire un mot ?
Oui, bien sûr. C'est un projet qui est mené depuis 2 ans maintenant, donc par Bénédicte Gadi, assisté par Turner Edwards, qui est assistant ingénieur de recherche, je ne me rappelle plus exactement du titre, désolé Turner, qui du coup s'est occupé de réinventorier, enfin recataloguer, revoir en tout cas l'intégralité des dessins de Nicolas Pineau, qui est du coup le fond d'atelier de Nicolas Pineau, sculpteur ornemaniste du XVIIIe siècle, et les Arts Déco abritent un ensemble de 500 dessins, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc il y avait quand même beaucoup de boulot, et voilà, Turner travaille dessus d'arrache-pied, et le projet évolue et est en cours, et projet de catalogage, du coup, donc d'écriture, de rédaction.
Et donc revenons à Denis Calando, donc, qui est collectionneur, effectivement vous avez dit héritier de collectionneur, mais enfin qui est passionné par le dessin, qui est en plus quelqu'un de très sympathique que je salue au passage.
Très sympathique.
Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec lui ? La marque Calando, évidemment, est une des marques très connues des amateurs de dessin.
Ouais, en fait, c'est pareil, Denis, ça fait quelques années qu'on se connaît. Et donc, pendant la thèse, j'ai appris ce projet qu'il avait de publier donc, la collection de son arrière-grand-père grâce à un inventaire qui a été dressé au décès de son arrière-grand-père, qui comprend un ensemble de 3000 dessins, de 3000 numéros décrivant des dessins. Et Denis a pour ambition de publier cet inventaire, c'est publier la collection via l'inventaire, en reprenant le classement de l'inventaire et en retrouvant le plus de feuilles possible. Donc ça fait quelques années que Denis travaille dessus, 5-6 ans je crois, un peu plus, mais 5-6 ans avec vraiment ce but de publication in fine. Et je vais arriver à partir de janvier pour aider, collaborer plutôt avec...
Pas uniquement sur le 18e, donc, parce qu'il...
Non, pas uniquement sur le 18e.
Ni uniquement sur la peinture, sur le dessin français.
Non, non, surtout. Il est temps d'élargir un peu ses horizons. Et non, je suis content parce que ça reste dessin, donc ça me fait extrêmement plaisir. La collection est extrêmement prestigieuse.
Oui, il y a dans tous les grands musées. Ouais. Il y a vraiment... D'ailleurs, il y a encore des dessins dans la collection.
Oui. Oui, il reste des dessins dans la collection également. Et ça va être un super projet d'édition. Et ça va être...
Vous êtes déjà un éditeur ou pas encore ?
Non, pas du tout. Non, pas. Et je pense que ça va faire partie du travail.
Et c'est un projet à quel horizon ?
Alors, on a dit 2 ans et demi pour l'instant. Je trouve que c'est bien d'être audacieux et de faire des délais courts.
Vous avez vu votre thèse assez rapidement. Hein. Vous avez vu votre thèse en 5 ans, ce qui est bien parce qu'il y a des fois des thèses qui traînent trop longtemps. Alors, c'est moins vrai maintenant puisqu'il y a des contraintes, mais j'ai l'impression quand même que les gens prolongent.
Oui, généralement les gens prolongent. Alors. J'aime bien les projets, mais j'aime les projets qui se terminent.
Oui, exactement.
Je trouve que c'est très important. Et quand on en a parlé avec Denis au début, je lui ai dit, ok, génial, parce que je trouve que le projet est fascinant. Et du coup, on va faire en sorte que ce soit terminé. Alors 2 ans et demi, c'est peut-être un peu audacieux, peut-être que ce sera 3 ans. Mais ce que je trouve génial, c'est que c'est un vrai projet. Le sujet est fascinant et il faut faire. Il faut vraiment faire. Là, il y a vraiment l'écriture, la mise en place, chercher un éditeur, les photos. Enfin, il y a tout ça, tout est à faire et je trouve ça génial.
Quelqu'un m'a parlé aussi d'un projet Gilo.
Un projet Gilo. Alors, ça, c'était... c'est mon ancienne vie. Non, c'est pas mon ancienne vie. Quand j'ai fait mon échange aux États-Unis en master, j'ai fait un stage à la Morgan Library and Museum. Et pour ce stage, j'ai travaillé sur une exposition Gilo. Avec Jennifer Tonkovic, du coup, qui est conservatrice des dessins à la Morgan, dessins français. Et il se trouve que le projet d'exposition avait été validé. Jennifer a fait sa thèse sur Gilo il y a quelques années. Et c'était la première exposition Gilo qui allait être montée aux États-Unis. Donc on a commencé commencé à travailler dessus. Donc ça, c'est 2016. C'est la première fois où j'ai vraiment travaillé sur Gilo en propre. Je suis retourné aux États-Unis en 2017, donc j'ai retravaillé sur l'exposition. Et entre-temps, la vie, la pandémie, a fait que tout ceci a été un petit peu décalé. Et en 2023, du coup, s'ouvre la première exposition Gilo à la Morgan Library.
Ouais. Donc vous avez collaboré à cette exposition ? Vous avez signé dans le catalogue ou...
J'ai pas écrit dans le catalogue, mais j'ai collaboré de manière informelle, enfin, avec la recherche passée. Et enfin, on s'est consulté sur certains points avec Jennifer au fur et à mesure.
Alors maintenant que vous êtes docteur en histoire de l'art, se pose la question qui vraiment est une vraie question, je pense, pour beaucoup de jeunes historiens d'art. Encore une fois, j'ai dit, il y a énormément de très bons historiens d'art. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés. Il y a le débouché éventuellement du marché, il y a le débouché de l'université, il y a le débouché du concours conservateur. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez faire plus tard, ou l'un ou l'autre ou...
Alors... Comme vous le disiez en introduction, je crois que c'est vraiment important de décloisonner le domaine de l'histoire de l'art. J'ai beaucoup de mal à considérer toutes ces cases bien séparées les unes des autres. Les universitaires qui font de la théorie, le marché de l'art, ces grands méchants qui vendent de l'art, non, pas du tout, c'est des découvreurs, c'est hyper important.
On est d'accord à 100% hein, là-dessus.
C'est un truc qui me dépasse. Et en plus, je pense que c'est un peu aussi un truc d'éducation, en vrai, d'éducation scolaire, hein, universitaire en tout cas, c'est très cloisonné, il ne faut pas le faire. Les conservateurs, c'est encore autre chose. Les conservateurs, ils travaillent que sur les objets, ils ne connaissent pas la théorie. Non, en fait, tout ceci n'a aucun sens, on fait tous le même métier. On l'exerce comme on peut, où on peut et avec les choix qu'on a faits. J'ai pas vraiment fait de choix. J'ai passé 2 fois le concours dans ma vie. Je l'ai pas eu, mais en fait, parce que je crois que foncièrement, et encore plus maintenant, en ayant fini la thèse et en étant un peu plus âgé, avec un peu plus de recul, ça ne m'intéresse pas de me prouver comme ça. Je considère que là, à 31 ans, j'aurais pas particulièrement envie de me prouver en passant le concours. Voilà. pour être très honnête, peut-être un petit peu perso, mais c'est vrai. Et par ailleurs, je pense que je ne serais pas capable de prendre la déception de ne pas avoir le concours, alors que j'ai une thèse. Enfin, il y a tout un truc très perso qui se joue, et d'estime de soi, en vrai, je pense aussi. Le marché, c'est super intéressant, et je rechigne pas à travailler avec le marché, ça ne me pose pas de problème, dans la mesure où je garde mon intégrité intellectuelle, et où je fais les choses comme je l'entends, et je donne l'avis que je veux donner. Sinon, je ne le fais pas. Et reste l'université, pas de poste, pas de moyens, extrêmement compliqué, et finalement pas vraiment ce que j'ai envie de faire. J'aime beaucoup enseigner en vacation, je trouve ça super, parce que j'adore enseigner, et je trouve que c'est un... Ça donne une sorte d'équilibre entre le côté un peu lunaire de passer sa vie dans des livres et dans des archives, et avoir amassé de la connaissance pendant 12 ans et être capable de la retransmettre, parce que je trouve que c'est pas très intelligent, enfin pas très intéressant de connaître beaucoup de choses et pas les transmettre. Du coup, finalement, les trois pistes que vous m'avez évoquées, oui ou non.
Il y a aussi
oui
le journalisme, mais c'est très compliqué aussi. Il n'y a pas beaucoup de postes, il n'y a pas beaucoup de...
Oui, et puis j'écris pas très bien, donc en vrai, le journalisme, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent pour moi. Non, du coup, je navigue au fur et à mesure des projets. Je pense qu'il y a un facteur chance aussi qui joue beaucoup. Clairement, la rencontre avec Lionel Sauvage m'a énormément aidé. La rencontre, évidemment, parce qu'on s'est rencontrés...
Ça se provoque la chance aussi.
Oui, après là c'était vraiment beaucoup de chance.
D'accord.
C'était provoqué, enfin pas vraiment provoqué, mais ça a très bien fonctionné. Je pense qu'il y a un rapport de confiance qui s'est mis en place assez rapidement, un rapport aussi assez amical, on s'entend vraiment très bien.
C'est difficile de ne pas être ami avec Lionel Sauvage, c'est vraiment sympathique.
C'est vrai, c'est vrai, et je pense que ça a aussi beaucoup facilité, mais comme avec Denis Calando, et je pense que c'est aussi quelque chose que je mets en avant dans mes choix professionnels. Je ne veux pas travailler avec. Je veux pas juste travailler avec des gens, je veux faire des vrais projets, des vraies aventures qui soient vraiment intéressantes et où tout le monde se sente bien. En fait, je crois que c'est aussi... Je considère qu'en ayant choisi l'histoire de l'art...
Donc vous restez indépendant, en fait, vous voulez vous faire...
Je vais rester indépendant, je pense que... Enfin, alors après, sauf poste qui se présente et... J'évacue pas à l'étranger, par exemple.
Oui.
J'ai une thèse, donc en vrai, il faut y réfléchir. Enfin, il faut garder ça en tête. C'est peut-être pas mon choix premier... Mais c'est sûr que si un poste génial sort à l'étranger et que je peux poser ma candidature et avoir une chance de passer les entretiens, je le ferai. Ça se tente, ça serait dommage de ne pas le faire. Mais pour l'instant, indépendant, ça fonctionne plutôt bien. Ça me permet aussi d'avoir une liberté de choix de projet. Et ça, c'est quand même c'est super précieux. Enfin, en étant historien de l'art, c'est quand même génial de pouvoir choisir... Bah, autant de travailler sur Fragonard avec Sarah Catala et Rico Atelem, et 6 mois après de faire un catalogue avec Denis Calando de 3000 dessins de toute école confondue. Donc ça, je pense que de ce côté-là, l'indépendant me rassure un peu.
Est-ce que, parce qu'il y a un vrai problème en France qui est effectivement certain, le manque de débouchés, donc vous assumez cette volonté d'être indépendant et de ne pas choisir une des trois carrières dont on parlait. Il n'existe pas de thèse, de comment dire, d'agrégation d'histoire de l'art et qui permettrait éventuellement d'avoir d'autres débouchés. Par exemple, moi, je suis fasciné de voir que on fait de l'histoire de l'art, en fait, de l'histoire des arts, ce qui n'est pas grand-chose, au lycée, au collège, et on fait faire ça par des gens qui ne sont pas historiens de l'art. Il y aurait des débouchés possibles s'il y avait des historiens d'art qui étaient engagés pour faire l'histoire de l'art. Ça, c'est quelque chose que vous aimez enseigner. S'il y avait, par exemple, une agrégation d'histoire de l'art, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter ou pas du tout pour...
Oh bah oui, ne serait-ce que par sécurité. Enfin, on ne va pas se mentir non plus. Le travail, c'est l'argent. Enfin, c'est une passion et je pense que
ça s'entend. Il y a trop d'historiens d'art qui n'ont pas de travail, alors qu'ils sont excellents. Enfin, moi, je connais beaucoup et qui... Vous l'assumez, même si vous parlez quand même de sécurité, mais c'est vrai que être indépendant, c'est quand même un risque.
Ah oui, c'est
clairement
un risque. Oui.
Et je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas ces historiens de l'art. Il y en a beaucoup qui pourraient faire de l'enseignement. Et il n'y a pas de volonté de ministériel, ni nulle part, enfin, ni du ministère de l'Éducation nationale, ni du ministère de la Culture, de mettre ça en place. Ouais. À mon avis, ça serait indispensable.
Bah, c'est-à-dire que si on veut faire un vrai enseignement, il faut effectivement former des enseignants à enseigner une matière particulière. Enfin, on ne demande pas à une personne qui a une licence d'espagnol d'enseigner les maths. Donc,
c'est pourtant ce qu'on fait avec l'histoire de l'art.
C'est pourtant ce qu'on fait avec l'histoire de l'art, ce qui est un peu, j'allais dire désœuvrant. Non, c'est peut-être pas désœuvrant. C'est frustrant. C'est sûr que ça fait. On a un peu envie d'avoir une agrègue en histoire de l'art. Je pense pas que ça se... Enfin, j'espère que ça se fera un jour et ce serait super parce que du coup, ça ouvrirait aussi plus de débouchés pour les gens qui font de l'histoire de l'art. Mais je pense que c'est aussi... on sous-estime l'apport de l'histoire de l'art. Alors, c'est pas parce que c'est ma vie que je considère que tout le monde devrait en faire. Ça apporte une intelligence différente. Regarder une œuvre, peinture, sculpture, art décoratif, peu importe. En fait, le jeu du regard lié à l'intelligence et à la compréhension de l'objet, ça crée des mécanismes très différents. C'est pas de la philo, c'est une autre intelligence, et je trouve que c'est une intelligence qui a un côté très pratique et qui pour moi est pas très loin de l'intelligence sociale d'une certaine manière. C'est une question d'interaction avec quelque chose qu'on regarde, qu'on doit considérer, et je trouve que en fait c'est intéressant dans la formation des jeunes adultes de potentiellement avoir ce rapport à l'objet qui est en vrai pour moi pas très loin du rapport à l'autre. Mais bon, après ça c'est la manière dont j'enseigne. Après peut-être qu'elle est pas absolument accepté par tout le monde.
Merci pour cette conclusion que je partage assez largement. Et merci d'avoir discuté avec nous de votre merci carrière et de Watteau et de votre carrière jeune encore, mais dont on espère qu'elle va donner encore beaucoup de produits et beaucoup de livres aussi intéressants que ceux dont on a parlé.
Merci beaucoup.
Axel Moulinier, et à rendez-vous pour la semaine prochaine pour une prochaine émission. Au revoir.
Au revoir.